www.radio-g.fr.
A 1, 2, 3, 4.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bienvenue dans le Manche Disque, émission une nouvelle fois confinée, la 28e émission. Salut Julien.
Salut. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Et oui, c'est une fois de plus Julien et Nico au micro. On fait comme on peut encore une nouvelle fois durant ce confinement. Et on vous a préparé une petite sélection, comme à l'accoutumée, bien éclectique, avec des petites thématiques tiens, pour aujourd'hui.
Oui, des petites thématiques un peu... pas aléatoires, mais qui se sont présentées d'elles-mêmes. En tout cas, moi, c'était pas calculé. Voilà. C'est en ayant choisi mes morceaux où je me suis dit, mais tiens, il y a un truc en commun un petit peu. Donc, je vais pouvoir en discuter à l'antenne.
Voilà, on trouve des petits fils rouges un petit peu improvisés en choisissant un petit peu dans nos discothèques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous passer? Et on va démarrer tout de suite avec tout de suite un petit morceau qui nous vient d'Italie.
Exactement. Telvio Cipriani avec le morceau Danger Flight Slow, issu de la bande originale du film de 1979 réalisé par Ruggero Deodato, le célèbre réalisateur qui aime bien violenter les tortues, Concorde Affaire 79, qui est sorti chez nous sous le nom de SOS Concorde, l'histoire d'un crash de Concorde durant sa phase de test. Alors j'ai récupéré ce morceau sur une très bonne compilation qui est en 4 volumes, la compilation Criminale, qui vient de chez Penny Records. Là c'est le volume 4 Violenza, et c'est une compilation de musique de films des films italiens des années 70 ou de musique de téléfilms qui passait sur la RAI, un peu de librairie, etc. Et c'est une compilation qui est pas très chère et qui est en plus format CD et vinyle en même temps, donc voilà, que je vous conseille. Et dessus j'ai trouvé ce morceau excellent et je me suis dit je vais vous le passer
avec une bien belle cover, oui. Un très beau artwork bien dégueulasse,
oui,
horrible,
ouais, voilà, avec des monstres, des machins, dans le ton quoi.
Violenza.
Exactement.
Très bien. Mais moi je vais enchaîner avec deux morceaux, et oui, deux pour le prix d'un, c'est le cas de le dire, puisque je vais vous présenter un espèce de sampling avant le sampling, quelque chose qui nous vient de début 70. Pour tout dire, Stephen Stills, hein, qui a sorti un album, donc Illegal Stills, dont le premier track s'appelle Buying Time. Et en l'écoutant, j'ai été frappé par la ressemblance qu'il y avait avec un célèbre morceau des Isley Brothers, issu de leur album Brother, Brother, Brother de 1972, donc 4 ans auparavant, et le célèbre morceau Work to Do des Isley Brothers. Donc il y a vraiment une ressemblance très frappante. Donc on en discutait un petit peu, hein, Julien, avant l'émission. On trouve ça un peu trop gros pour être peut-être involontaire ou en tout.
Surtout que c'était un numéro 1, je crois, ce morceau-là,
ça a été
a cartonné.
Un hit, voilà.
Donc bon, c'est pas très discret.
Donc voilà ce qui me fait dire que c'est peut-être du sampling de première heure, bien avant peut-être le hip-hop voilà l'explosion du sampling dans le hip-hop, ouais. Et puis tous les problèmes juridiques que ça a pu faire. On peut voir que voilà, on peut partir d'un morceau funky soul à un morceau de rock comme savait le faire le fameux Stephen Stills. Qui a fait partie, pour ceux qui ne le connaissent pas, du célèbre trio aussi.
Et Quatuor.
Et Quatuor. Ensuite, il y a eu Young qui les a accompagnés sur quelques albums.
Nous parlons bien sûr de Crosby, Stills, Nash & Young.
Voilà, c'est ça. Voilà, Crosby, Stills & Nash, emblématique de la scène 60-70, voilà, américaine. On s'écoute donc ces deux morceaux qui vont s'enchaîner. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte vous-même du point commun qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, à tout à l'heure. We'll be right back.
Le manche-disque.
Le manche disque sur Radio G 101.5 FM. Donc j'espère que vous vous êtes rendu compte aussi de cette ressemblance, il me semble assez évidente, entre les deux morceaux que je viens de vous passer. Je disais que c'était du sampling début 70. Voilà, je rappelle, donc là, les Brothers en 72 sortent ce morceau Work to Do, et en 76 Stephen Stills chope cette ligne pour en faire son morceau à lui qui s'appelle Buying Time. Je te laisse maintenant la parole, cher Julien, parce que je pense que toi aussi t'avais envie de nous enchaîner deux morceaux à présent.
Oui, tout à fait. Je vais commencer par un premier en vous parlant d'un monsieur qui a commencé à jouer de la guitare dans une version embryonnaire de Kraftwerk, puis qui a fondé en duo le formidable Neuil, le groupe que David Bowie adorait avec Klaus Dinger. Puis, qui a fait produire ses premiers albums par le légendaire Connie Planks, et qui ensuite est allé cofonder Harmonia avec Hans Joachim Rodelius et Dieter Moebius, dont Brian Eno disait que c'était le groupe le plus important du monde, avant de poursuivre sa carrière en solo. Je veux bien sûr vous parler de Michal Rother. Michal Rother, dont en ce moment Groenland publie sous la forme de deux coffrets, Solo 1 et Solo 2, sa dizaine d'albums solo. Donc ça commence à la toute fin des années 70 et ça se poursuit jusqu'au dernier album de la boîte 2 qui date de 2020, qui a été composé et produit tout seul, là pour le coup, durant le confinement. J'ai envie de vous passer un morceau de l'album de 1987 qui s'appelle Traumreisen, qu'on pourrait traduire par Dream Trip ou Voyage rêvé, voyage de rêve, je vous laisse traduire. C'est un morceau que j'aime beaucoup, qui est dans cet album, qui s'appelle Schwarze Augen, qui veut dire les yeux noirs.
Manche disque.
c'est Raviv Gazit qui a pris la suite de Michael Rother. Alors Raviv Gazit, c'est à la base un musicien, enfin il a une formation de musique classique, mais c'est également un étudiant et un passionné d'informatique qui était notamment dans l'université de Tel Aviv, dans le département de musique électroacoustique. Et un jour, il a découvert dans les pages d'un magazine une pub, ou en tout cas un article sur le synth clavier, un instrument, un des premiers gros synthétiseurs qui date de 72 ou 73, qui coûtait à l'époque une fortune. Alors là, je vous dis, on est sur le début des années 80, donc c'est un appareil qui existe déjà, mais qui est vraiment à l'usage des professionnels. Il a arrivé, le petit malin, il a réussi à faire acheter l'appareil par son université, et le soir, alors que tout le monde rentrait, lui, il restait, il dormait sur place, et il enregistrait des morceaux. Des morceaux qu'on servit à des pièces de théâtre, à des, même des films, des choses comme ça, et qu'il a décidé de regrouper sur un album en 1988 intitulé Z, qui est en rapport notamment avec le mot zen en israélien.
Oui, parce que c'est Z, Z-E, c'est pas voilà. Z anglais, T-H-E, quoi.
Exactement.
Z-E, Z.
Et en fait, Z. C'est un album qu'il a composé tout seul, entièrement, au synth clavier 2. Et comme ça coûtait pas du tout cher, il a pu négocier le fait qu'il soit masterisé à Abbey Road, le petit côté un peu quand même classios. Mm-hmm. Et c'est un album qui a vraiment au Moyen-Orient, qui a eu son petit succès à l'époque, et puis qui s'est fait un peu oublier, même si Raviv Gazit continue aujourd'hui à composer, on entend moins parler de lui, et qui a été récemment réédité par Fortuna Records, un label qui s'est un peu spécialisé sur tous les sons du Moyen-Orient des années 70-80. Et le morceau s'appelait Hafazim, qui veut dire things, donc choses.
Voilà. Ok, ok. Eh ben écoute, moi je te propose de voyager, puisqu'on a déjà un petit peu commencé avec le Moyen-Orient. Mm-hmm. On va partir du côté des Balkans avec un disque que j'ai découvert récemment, qui est un disque de Bulgarie, d'un groupe qui s'appelle Plovdiv Folk Jazz Band, et qui, comme son nom l'indique très bien, oui, est un groupe qui fusionne le jazz et la musique folklorique bulgare, et qui est originaire de la ville de Plovdiv en Bulgarie. Ouais. Et donc j'ai chopé exactement. Mmh. Et donc j'ai chopé un LP de très très bonne facture qui date de 1988, donc on est à la fin des années 80.
La même année que ce qui vient de passer.
La même année, ouais, en plus. Donc vous voyez, on est dans deux régions du monde différentes. Qu'est-ce qui se passe en 88? Eh bien, on a eu un aperçu de Tel Aviv. Maintenant un aperçu de la scène jazz du Balkan avec donc un morceau qui s'appelle Free, qui porte aussi bien son nom, puisque vous allez voir, mm-hmm, on part dans la musique folklore bulgare et puis on part, on dérive, on s'envole vers le free jazz.
Et sans décalage aucun, hein, c'est hyper. Enfin, il n'y a pas de rupture, quoi.
Non, c'est ça qui est vraiment. C'est une super fusion bien réussie, vous allez vous en rendre compte avec ce morceau qui s'appelle donc Free, du Plovdiv Folk Jazz Band. We'll be right back.
Sur Radio G 101.5, le manche disque, on s'approche tout doucement de la fin de notre émission. On a quand même le temps de vous passer encore deux bons morceaux et une interview.
Et oui, c'est le retour des interviews. Exactement. On en parlera tout à l'heure.
Voilà. Donc moi, je vais conclure sur les morceaux que nous vous présentons en direct de notre confinement avec un petit morceau, comme d'habitude, de Brown Acid. Il s'agit cette fois-ci du 11e trip, hein, le tout dernier. Là, il est tout frais, il sort des usines de pressage et il tombe dans les bacs.
La promesse de un Brown Acid par émission,
voilà,
est
exactement,
tenue.
Exactement, voilà. On en est au 3e, je crois, si
très
je
bien.
Me trompe pas.
Et donc, le 11e, donc ça veut dire qu'on en a... On va avoir le plaisir d'en entendre encore pas mal.
Oh bah oui, puisqu'il y en a, en plus il y en a 10 par compilation, donc j'ai 110 morceaux, donc j'ai le choix.
Impeccable.
Donc je vous propose aujourd'hui un morceau de 1968 d'un groupe de Sault Ste. Marie, Michigan, qui s'appelle Renaissance Fair. Renaissance Fair, alors là ils ont vraiment très bien expliqué Riding Easy quand ils présentent chaque groupe. Ils disent que c'est vraiment complètement barré. Ils disent, imaginez quelqu'un qui laisse un exemplaire de Strange Parade de The Doors devenir complètement ondulé et cramé par le soleil. Mettez-le dans un lecteur de vinyle pour enfants déglingué et à ce moment-là, des visiteurs de l'espace entendent ce son et essayent de le reproduire. Et voilà un peu ce que ça pourrait donner si c'était le morceau In Weird de Renaissance Fair. Et donc ça me permet de conclure ma petite thématique parce que vous avez vu qu'on était pas mal dans le clavier, les synthés, le synclavier. Et là, vous allez voir, avec ce groupe-là, on est à fond dans les orgues, complètement barrés.
Et d'après le descriptif, à fond dans l'acide aussi.
Ah oui. Bon. ça s'arrête aussi brusquement qu'une coupure de courant, je pense que leur orgue a dû griller après autant de mauvais traitements.
Voilà, et notre émission va s'arrêter aussi moins brutalement, puisque c'est déjà l'heure de se dire au revoir, en tout cas en ce qui concerne nos morceaux qu'on voulait vous proposer ce soir. Mais bonne nouvelle, c'est le retour de l'interview du Manche Disque, hein, qui sera pas, je pense, aussi régulière qu'elle n'a été au tout début de nos émissions.
Ouais, sur la saison 1.
Voilà, sur la saison 1, voilà, mais qui va quand même perdurer voilà, au compte-goutte dans les émissions. Vous aurez parfois le plaisir.
Petit bonus, quoi.
Voilà, un petit bonus. Et donc, on va entendre l'interview ce soir, eh bien, d'un artiste angevin qui s'appelle Fabio Longoni, qui nous vient tout droit de Rochefort-sur-Loire. Donc, c'est près de chez nous. Et qui va bah, nous parler de sa passion, entre autres, pour le vinyle, et aussi de ses projets artistiques en ces temps compliqués de confinement.
Et choisir et nous proposer évidemment son morceau, comme c'était l'usage avec l'invité.
C'est la tradition, l'invité interviewé nous fait découvrir un de ses morceaux fétiches pour conclure l'émission. Donc on vous laisse avec Fabio, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, donc vous allez aussi m'entendre un petit peu. Et puis on vous dit à dans 15 jours avec un grand plaisir.
Exactement, à dans 15 jours, bye bye.
Bye bye.
Alors je suis avec Fabio Longoni, bonjour Fabio.
Bonjour.
Bienvenue dans le Manche Disque, ouais. Donc l'émission du disque vinyle. Donc tu es comédien, metteur en scène. Tu te produis principalement dans la région angevine et tu es basé sur Rochefort-sur-Loire, si je ne fais pas d'erreur.
Oui, c'est ça. Ouais. J'habite à Rochefort. Après, ma compagnie de théâtre principale elle est à Saint-James-sur-Loire, juste à côté d'Angers. Ouais. Et puis effectivement, je travaille avec des compagnies de théâtre angevine qui mélangent souvent théâtre et musique aussi.
D'accord, bah peut-être je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter un petit peu les projets passés ou actuels, et puis bah, bien évidemment peut-être aussi deux petits mots sur la situation actuelle, puisque je précise qu'on enregistre cette émission et cette interview en plein confinement, donc bah, c'est pas simple pour les artistes, j'imagine.
Tout à fait, oui, oui. Bah là, j'enchaîne directement sur la situation actuelle. Ça dépend après de nos métiers, parce qu'on fait tous les comédiens, les artistes, tous les techniciens, on fait des métiers différents, suivant les spectacles qu'on a en cours ou suivant nos disciplines. Et moi, là, j'ai la chance de ne pas avoir de date prévue en novembre-décembre, à part des ateliers ou du travail de répétition. Et là, en ce moment, j'en profite d'écriture. Vu que les enfants peuvent être à l'école, ça laisse du temps pour écrire. Et du coup, oui, donc je suis comédien, metteur en scène et auteur aussi de pièces de théâtre, de spectacles, et intervenant donc pédagogique dans des lycées et dans d'autres structures. Et le théâtre que je fais avec la compagnie du CRI notamment, que je co-dirige avec un musicien, Olivier Messager, on fait vraiment une fusion de théâtre et de musique. On invente des histoires. On est 2, 3, 4, 5, plusieurs musiciens, techniciens son, metteurs en scène. On travaille avec nos textes vraiment sur le fait de mettre les deux disciplines, théâtre et musique, au même niveau. Ce n'est pas de la musique qui accompagne le théâtre ou l'inverse. C'est vraiment de fusionner au maximum. Donc on a fait des formes différentes, murmures, premier spectacle qu'on a fait il y a 10 ans, hurlement. Après on était avec basse, batterie et une comédienne. Et le dernier spectacle qu'on a fait, c'était sur les rêves. Donc on travaillait avec Gwen Labarta notamment, qui nous transformait les sons sur scène. Il y avait un mélange d'acoustique et de musique amplifiée pour donner une texture un peu onirique et se balader entre un quotidien réel et le monde des rêves. Voilà, ça c'est mon travail principal. Et puis sinon, je travaille dans d'autres compagnies de théâtre où je suis interprète, comédien pour d'autres. Et je continue à travailler la forme. En ce moment j'écris, c'est pour écrire des histoires racontées sur de la musique électronique ou des samples. Toujours à fouiller dans les formes. Je travaille aussi beaucoup avec DJ Spock. On a fait des essais, pareil, de mélange audio entre musique, DJing, sample, library music, et puis moi je parlais dessus. Et puis on a fait des conférences aussi sur la musique, sur le hip-hop, sur la musique psychédélique. On a fouillé les vinyles de la BM Toussaint aussi, on a fait ça une fois. On est allé dans le sous-sol de la bibliothèque municipale Toussaint. La médiathèque.
Avec des belles trouvailles, j'imagine.
Oui, alors on était déçus du nombre de vinyles dans le sous-sol. Il y en a énormément en classique, mais en tout ce qui est rock, jazz, beaucoup moins. Alors j'ai pu voir, il y avait plusieurs Brigitte Fontaine qui n'étaient pas classées à Brigitte Fontaine, mais à Areski. C'est pour ça qu'on les trouvait pas forcément dans la base de données. Ouais. En jazz aussi, sur le label Pablo, un label que je connaissais moins, des bons Dizzy Gillespie, un peu plus latino. Voilà, il y avait un petit peu de tout. Ouais.
D'accord, ben on a interviewé DJ Spock dans le Manche Disque il y a quelques émissions, et effectivement il nous avait parlé d'un projet comme ça, un projet musique et visuel en même temps, donc peut-être que ça y faisait référence à ce que vous faites tous les deux.
Oui, peut-être. Enfin, ouais.
C'est pas impossible. En tout cas, ça nous emmène doucement vers le thème du disque vinyle et de la musique. Même si je suis très content d'apprendre que pendant le confinement, des artistes comme toi peuvent s'en servir pour écrire justement et pour peut-être laisser maturer peut-être des projets qui vont sortir et qui seront d'autant plus intéressants quand on l'espère quand même tout ça sera derrière nous. Hein. Voilà. Donc, on va arriver donc sur la question du support du disque vinyle. Alors, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que tu es toi-même collectionneur de disques vinyle.
Oui, je suis collectionneur, ouais, tout à fait. Ouais. Vinyle et CD aussi. J'ai pas mal de CD.
Ouais. Donc en fait musique. Principalement du coup moi je vais te parler du vinyle parce que c'est le thème de l'émission et surtout la question qui vient c'est qu'est-ce qui fait qu'en 2020 eh bien on a toujours à cœur d'avoir une platine, d'avoir une installation, d'avoir des disques vinyles, sachant que c'est franchement pas le plus pratique aujourd'hui pour écouter de la musique. Alors toi quel intérêt tu y trouves puisque c'est ce que tu pratiques?
J'ai 46 ans donc ça fait une trentaine d'années que je collectionne des disques. En plus des livres, tout ça, mais je vais pas rentrer là-dedans. En plus j'ai commencé donc par le CD, parce qu'à l'époque, je me suis fait avoir, entre guillemets, c'était le support magique, plus solide, avec un meilleur son. Ouais. Et heureusement, il y a des anciens où, comme j'écoutais beaucoup de hip-hop, des DJ aussi de hip-hop qui étaient déjà sur le vinyle, et donc je n'étais pas tout de suite d'accord, et puis progressivement, heureusement, j'ai écouté leurs conseils et j'ai aussi parallèlement collectionné les vinyles. Et ce que j'aime dans le vinyle, c'est il y a l'objet, hein, bien sûr, qui est plus au niveau de l'image de la pochette, qui est plus grande. On peut vraiment plonger comme dans une affiche. Ouais. J'ai du plaisir des fois à assembler trois vinyles différents sur le mur quand j'écoute des disques, et puis de faire des assemblages, des montages d'images, partir sur une thématique de dessin ou pas, comment assembler telle pochette avec telle pochette. Par exemple, là, en ce moment, il y a Ulysse 21 qui côtoie King Crimson, donc c'est assez drôle, quoi, des genres de musique complètement différents.
Oui, c'est assez cocasse, ouais.
Ouais, on peut s'amuser avec les pochettes. Il y a vraiment l'objet, hein, le plaisir justement de poser la platine, de poser le disque sur la platine. Il y a un temps d'écoute, il y a un silence avant, il y a un bruitage avant, et puis évidemment le son qui est différent. Même si je m'amuse des fois à l'importer sur un CD, je grave en des CD depuis un vinyle. Après, je les écoute dans la voiture. J'écoute beaucoup de musique en voiture.
C'est le sens inverse. Souvent, on décrit certains vinyles qui sont faits à partir de master CD. Ouais. Et toi, tu fais l'inverse. Tu encodes du vinyle pour les mettre sur des CD. C'est original.
Voilà.
C'est sympa.
Les écouter dans la voiture, faire des compilations. Je me fais des compiles. Ouais. Donc voilà, il y a l'objet, il y a le support, il y a le temps d'écoute aussi. J'aime bien le shuffle et le random. Quand je vais chez des amis, ils mettent des MP3 plus ou moins de bonne qualité au hasard. J'aime bien le rapport du hasard aussi quand je mets un shuffle ou un random sur un CD. Mais j'aime bien aussi le temps d'écoute de la phase de vinyle. Je le mets, il y a 20-25 minutes d'écoute et après il y a une pause, il y a un silence et je passe à autre chose. Ouais. J'aime bien aussi les temps de silence entre deux morceaux, deux phases de vinyle.
Ouais, c'est vrai que ça revient souvent, cette temporalité différente aussi. Hein. Le fait aussi que si on met un disque vinyle pendant, comme tu l'as dit, une phase qui dure 20-25 minutes, eh bien, ça incite aussi à être plus attentif à ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas partir 10 minutes et revenir. Quoi.
Oui, il y a ça, et puis il y a le temps de pause aussi entre les deux. L'oreille se nettoie, l'esprit se prépare à autre chose, ou digère ce qu'il vient d'entendre. Ouais.
Et on peut mettre plus ou moins de temps avant de retourner le disque, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, oui, celui-là, ou changer. Écoutez,
ou changer carrément.
Ou changer carrément, ouais. Ça me dérange pas, des fois, de contraire. Ouais.
Carrément. Et alors, si on va dans les souvenirs peut-être plus infantiles, parce que le vinyle, c'est aussi ça, c'est aussi le côté vintage, hein, le côté ça nous renvoie aussi à une époque. Tu parlais de ton âge tout à l'heure, bon, on est vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire que quand tu es né, la façon d'écouter de la musique, c'était principalement par le disque.
Un vinyle, ouais.
Si on met de côté la radio, bien sûr.
Oui.
Du coup, est-ce que tu as un souvenir particulier autour d'un disque vinyle, que ce soit en tant qu'enfant qui entend ou en tant que déjà acheteur qui va chez un disquaire s'acheter un disque.
Je rebondis juste sur une chose. Il y a le. Oui. Je te dis, moi c'était l'âge d'or du CD où on l'a payé très cher d'ailleurs. Hein. Je suis un peu déçu de tout l'argent que j'ai mis en budget dans des CD que j'aurais pu mettre en vinyle. Mais il y avait aussi la cassette.
La cassette audio. Oui, c'est
vrai. Donc, j'ai beaucoup vécu ça. Mais la cassette audio dans le Walkman, la cassette audio, on se faisait des compiles, on recopiait l'original, etc. Ouais. Et qui avait une certaine qualité. Hein. C'était des bandes, je me rappelle, on pouvait les garder. Et à l'inverse, des fois, il y avait des cassettes qui finissaient mal, le son se transformait. C'est mes premières compiles aussi. On les faisait sur cassette, on s'était passé.
Oui, mais donc, les cassettes, c'est en train de revenir aussi à la mode, hein, paraît-il.
Oui,
paraît-il
qu'il y a,
on parle de plus en plus d'un revival de la cassette.
Et moi, du coup, mon premier rapport au vinyle, c'était dans la collection de mon frère. Et j'écoutais pas du tout la même musique. Après, lui, il était à fond sur tout ce qui était, comment ça s'appelle, Cold Wave, Cure, toutes ces musiques-là. Le label 4AD. D'accord. J'aimais bien Dead Can Dance dedans.
Ouais.
Mais c'était pas du tout mon genre de musique. Après, je me suis enfoui. Et sinon, chez mes parents, il y avait une sorte de bac où il y avait l'alcool d'un côté, il y avait un bac à alcool, une sorte de coffre qu'on soulevait. Et à côté, il y avait plein de petits vinyles, des petits 45 tours que j'aimais bien pour la musique d'enfants dedans. Il y avait Ghostbusters aussi, tiens. Puis il y avait tous les tubes pour enfants, là où il y a un livre, où il faut tourner la page avec le signal du vinyle. Ça, c'est mes premiers rapports, on va dire, au vinyle enfant.
Ah oui, les histoires, c'est ça, raconter avec des livres en même temps. Oui.
Ouais,
effectivement, oui.
Et ça a dû m'influencer. Ouais. Il y a ça. Et d'ailleurs, je rebondis, je fais écouter à mes enfants un mec qui me fait beaucoup rire et qui a travaillé là-dessus, qui a réutilisé ce principe-là, c'est Vincent Malone, qui fait une chanson un peu délirante. Et il a des histoires pour enfants, il s'appelle les contes mélangés, qui sont très très drôles, où il mélange des contes et il joue sur le format audio. Voilà, donc ça me rappelle ça un instant.
D'accord, et c'est plutôt contemporain.
Ça, c'est contemporain.
Je connais pas du tout.
Ouais, Vincent Malone,
donc.
Ouais, Vincent Malone. Voilà. Les contes mélangés, parce qu'il a fait des chansons jeune public décalées, mais là, c'est super drôle à écouter à tous les âges en plus. Il y a du second degré mélangé à du premier degré.
Ah bah, les auditeurs parents qui nous écoutent, ça peut donner des idées. Voilà, une bonne idée aussi.
Même
pendant le confinement, ça peut aussi servir hein, quand il fait pas beau le week-end.
Les contes mélangés. Sinon, moi, mon premier souvenir, c'est de musique, et c'est pas forcément que le vinyle, c'est le qui m'a plongé dans la collectionnite. C'est l'album de La Soul, le premier en 89, Three Feet High and Rising.
Oui.
Où dedans, il y a aussi des petites histoires. D'ailleurs, il y a des petits bips. C'est le premier album de rap avec des interludes.
Avant de passer une chanson.
Ils ont inventé plein de choses.
En forme d'espèce de d'émission télé, non avec un présentateur qui laisse la parole à des candidats. C'est
tout à fait.
De mémoire,
ouais, tout à fait. Et celui-là, je l'écoutais en boucle et il m'a amené après dans l'univers du hip-hop, après dans l'univers des samples, du funk, le reggae, tout ça. Ça a été un progressif, une étape m'en a amené à une autre, un domaine de musique m'a amené à un autre domaine.
Donc c'est par le hip-hop en fait et par les samples. On sait très bien que le hip-hop utilise des samples venus d'horizons vraiment très très divers et variés. Et c'est par les samples en fait que tu trouvais dans les chansons hip-hop que tu as élargi ton horizon musical alors.
Oui. C'est d'un côté par les samples, surtout en 89 il n'y avait pas encore de loi là-dessus. C'était gratuit de sampler, on pouvait sampler qui on voulait.
Ouais.
C'est après les premiers.
Ça n'a pas duré longtemps. Oui.
Bah ça a duré de 79 à peu près, je crois 91-92.
Ouais, c'est ça. 79
sampler.
Quand même. Ouais.
Bah, le premier album de hip-hop 79, ouais.
Ah ouais, plus d'une décennie. Où c'était encore possible. J'ai
une
mémoire comme ça, une histoire entre Lou Reed et Tribe Called Quest. Moi,
sur le Can I Kick It. Ouais.
Est-ce que c'est pas le premier grand procès pour plagiat? Je sais pas.
C'est celui-là et Bismarcky. Bismarcky aussi. Et justement, le De La Soul, il avait réussi à le sortir. Et un ou deux ans plus tard, les Turtles. Il y a un morceau, il sample une leçon de français sur un sample des Turtles, un des groupes de rock californien. Dedans, il y a, il est midi, c'est l'heure de déjeuner. Est-ce qu'il y a des saucisses à manger, sans doute?
Oui, 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 exact.
Un magnifique morceau, ouais, qui a très bien vieilli, cette sorte d'interlude. C'est pas un vrai morceau. Et pareil, qui m'a fait découvrir les Turtles, qui est un très beau morceau, là, je réécoutais l'autre jour. Et donc, ça m'a amené à travers les samples dans d'autres musiques, et aussi une entrée dans la musique noire, on va dire afro-américaine, pour résumer, la grande musique noire, soul, funk, jazz. Ouais. Ça m'a amené à toutes ces musiques-là. Puis c'était, moi, j'étais en pleine époque du rap jazz aussi, de la acid jazz après, du hip-hop jazz. Mmh. Où il y avait tous les groupes après qui mélangeaient, hein, Tribe Called Quest, The Roots, il y en avait plein, plein, plein. Donc c'était vraiment cet âge d'or-là, entre guillemets, quoi, qui m'a amené à d'autres musiques. Ouais.
Ok. Et il me semble, en parlant de musique noire américaine, il me semble que tu as aussi été un petit peu dans l'aventure Funkadelica. Nos chers amis de Radio G, non ?
Tout à fait, ouais, j'ai eu la chance. Ouais. On s'est croisés dans un magasin de disques à CDBD avec Hervé. Et puis on a parlé de nos passions, il m'a parlé de l'émission. Oui, je les ai rejoints. Ouais. J'ai passé quelques disques avec eux. Ouais. C'était il y a une dizaine d'années. Et juste avant, j'avais fait une émission dans Radio G, une fois par mois, je crois, qui s'appelait Bounce. Bounce dans le sens du rebond en anglais, où tu rebondis d'une musique à l'autre. J'adore faire ça, je déteste les cases. J'aime bien les puristes, hein, qui vont à fond, qui vont fouiller un sillon. Ouais. Mais j'aime bien aussi quand il y a des liens d'une musique à l'autre. Et mon but, c'était partir sur une thématique, soit sur dans les paroles, sur la guerre et la paix, soit dans les musiques, soit sur Quincy Jones, par exemple. Et de montrer tous les liens qui peuvent se faire d'un genre de musique à un autre. C'était vraiment ma thématique, c'était de faire des liens, quoi, les transitions, les liens d'une musique à l'autre.
Ouais. Ah, bah écoute. Écoute, ça rejoint peut-être un petit peu l'éclectisme qu'on essaye de cultiver, en tout cas au manche-disque. Hein. On essaye de, bien sûr, dans la limite de nos goûts, mais on essaye aussi de pas mettre trop de frontières et d'être plutôt ouvert aux différentes influences qu'ont les styles toujours l'un sur l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant. Écoute, je te remercie beaucoup, Fabio, pour ces paroles, hein, autour de la musique et du disque vinyle. Il est arrivé l'heure de conclure cette interview avec notre désormais tradition, celle de confier à l'invité le choix du dernier morceau de l'émission, donc sur le morceau sur lequel on va se quitter. Et puis, forcément, je te laisse en parler un petit peu.
Ah ben merci. Et ben là on a parlé du De La Soul et puis des Turtles, et puis il y a un autre morceau aussi où j'avais adoré le sample. C'était un sample qui avait été utilisé sur Massive Attack, sur le premier album, sur One Love, qui est un morceau de reggae mais qui utilise un sample de Isaac Hayes sur l'album To Be Continued, où il y a la tête d'Isaac Hayes en pause. Et c'est le Ike's Mood, alors qui est très long, hein, je suis désolé. Je vous laisse couper dedans, et voilà. Très bon.
Écoute, si c'est long, tant mieux, ça va nous permettre d'en profiter encore plus, voilà. Ce magnifique Isaac Hayes qui nous a tant ravi les oreilles durant toute sa carrière. Donc c'est avec plaisir qu'on va s'écouter ça. Merci beaucoup Fabio, et puis je te souhaite du coup de bonnes séances d'écriture alors pendant ce confinement. À plus.
À plus.